France Inter. Bonjour, bienvenue dans le débat de midi sur France Inter. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau débat sur l'héritage, cadeau empoisonné ou impôt sur la mort. Et ce matin, eh bien, nous sommes chez un notaire. Il s'apprête à lire le testament d'un très riche patriarche défunt. Mes chers enfants, je vous ai tout donné de mon vivant, de l'amour, une bonne éducation. Je vous ai armé pour les combats de la vie, mais je ne vous laisserai que très peu d'argent à ma mort. Ma fortune ira pour des œuvres philanthropiques, pour plus de justice sociale. À vous de construire, de travailler, libre du fardeau de mon héritage. Alors ce discours, on l'entend de plus en plus dans la bouche des super ultra riches, Bill Gates, Mark Zuckerberg ou le français Pierre-Édouard Sterrin. Tous ont ou vont déshériter leurs enfants pour leur donner de l'ambition et surtout pour relancer l'ascenseur social. Aujourd'hui, les successions représentent 60% du patrimoine national. La France est devenue ou redevenue, comme au 19e siècle, une société de rentiers. Alors, la solution serait de taxer l'héritage, de le plafonner. Mais à quoi bon travailler? À quoi bon produire si on ne peut pas transmettre le fruit de son labeur? Qu'est-ce qu'une société qui ne lègue rien à ses enfants? Le droit à la succession est en débat sur France Inter.
France Inter. Le débat de midi. Paola Puerari.
Et pour ce débat sur l'héritage, injustice ou droit fondamental, vous êtes très nombreux à nous écrire, chers auditeurs, vous êtes très nombreux à nous dire stop, comme Fabrice, trop taxer les héritages ne ferait que nous transformer en cigales et être tous pauvres, ou Marlène, au contraire, est bien tentée par l'idée de déshériter ses propres enfants. Je voudrais avoir la liberté d'offrir le fruit de mon travail à qui je le souhaite et prioriser mon conjoint qui, lui, ne m'a jamais abandonné. Si, comme ces auditeurs, vous trouvez que nous sommes passés d'une mérite héritocratie à une héritocratie. On va revenir sur ce concept. Vous réagissez sur l'application France Inter. Vous nous envoyez une note vocale sur le WhatsApp de l'émission 01 45 24 7000. Vous faites comme Léa, vous faites entendre votre voix.
Bonjour, je m'appelle Léa et je suis contre l'héritage parce que ça permet pas l'égalité des chances. Moi, je viens d'une famille plutôt aisée, donc je serais perdante si jamais on venait à modifier le système. Mais je préférais que les héritages soient redistribués, par exemple, qu'à 18 ans, tout le monde reçoive la même somme. Je trouverais ça plus juste.
Et pour débattre, j'ai à ma table Jonathan Angelaf. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Entrepreneur à succès, partir de rien, aujourd'hui millionnaire qui publie Rien à perdre aux éditions Alizio, et tellement rien à perdre que vous seriez prêt à votre mort à ce que l'État prenne énormément, à une condition quand même.
Bien sûr, la condition ça serait qu'elle ne me taxe pas, ou très peu, durant ma vie. Pour justement continuer à faire travailler l'argent durant mon vivant.
Face à vous, Mélanie Plouvier, philosophe, bonjour.
Bonjour.
Qui a écrit un livre qui relance le débat public cette année, L'injustice en héritage, aux éditions de La Découverte, où vous comparez la France à un autre siècle.
À la société française du 19e siècle, les inégalités étaient plus importantes, mais il y avait un très riche débat à l'époque sur la question de l'héritage.
Et enfin, Olivier Babeau, économiste libéral, qui compte bien défendre le droit à la succession, car sinon, à quoi bon travailler, Olivier ?
Oui, bonjour. Il y a plein de pays où il y a absolument zéro droit de succession. Ces pays sont affreux, n'est-ce pas ? Le Canada, la Norvège, la Suède, zéro droit de succession. C'est vrai que c'est évidemment la barbarie.
Bon, alors avant d'ouvrir ce débat, on va vous donner de la matière, du fil à retordre avec Cécile Duflo qui est en ligne avec nous. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour.
Directrice d'Oxfam, vous appelez à taxer les super-héritages pour lutter contre les inégalités sociales. Et selon votre rapport, celui d'Oxfam, 0,1% des héritiers reçoivent en moyenne 13 millions d'euros. Une injustice pour vous ?
Mais en fait, quand on parle des héritages, il y a plein de différences. La moitié des Français à peu près vont dans leur vie hériter de rien ou de très peu de choses. Et ça, on n'y pense pas souvent. Quand on parle des héritages, on pense de ceux qui héritent, mais il y a beaucoup de gens qui n'héritent pas, voire qui refusent l'héritage de leurs parents parce qu'ils ont des dettes et que sinon ils hériteraient de leurs dettes. Donc il ne faut jamais oublier ça, c'est que ce n'est pas une évidence d'être un héritier. Ensuite, il y a donc beaucoup de différences et ceux qui héritent de 13 millions d'euros, c'est 1 pour 1000 des héritiers. Donc c'est très très peu. Et là, le problème qui nous arrive, c'est qu'il y a un envol de l'héritage au profit des super super riches qui payent en proportion moins d'impôts que l'immense majorité de ceux qui héritent. Et ça, c'est problématique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'avantage qui est donné aux super super riches, avec une concentration de la super richesse qui crée et qui provoque un niveau d'inégalité très important et qui, on le voit aux États-Unis, on commence à le voir en France, pose des questions en matière de démocratie, puisque vous avez des gens qui ont une telle fortune qui peuvent contribuer à acheter le pouvoir.
Ce que souligne votre ONG, c'est que plus vous êtes riche, moins vous êtes imposé sur l'héritage. 10% de taxation pour les enfants, entre guillemets, bien-nés, contre 45% pour le français moyen.
Exactement. Si vous héritez de 13 millions, en proportion, vous allez payer beaucoup moins de frais de succession, en proportion, que si vous héritez de 400 000 euros. Voilà la réalité de la France. Et nous, on pense que cette situation-là, elle est totalement injuste. Et que donc, on doit s'occuper d'enlever en fait, des niches qui existent au profit des super héritages au-delà de 13 millions d'euros. Que dans le débat sur les héritages, qui est un débat intéressant, nous, notre proposition, ce n'est pas d'empêcher l'héritage. Je vais écouter avec intérêt vos invités. Mais en revanche, de dire la priorité en France, c'est de s'occuper des super héritages. Parce que ceux-là, ils sont injustes, ils sont moins taxés que tous les autres.
Cécile Duflot, restez avec nous. Olivier Babeau, une réaction sur cette proposition d'Oxfam d'épargner les héritages pour les Français moyens, mais de taxer les super-héritiers.
Aujourd'hui, 87% des héritages ne sont pas taxés parce qu'ils sont en dessous de 100 000. Donc en fait, les Français moyens, parce que dedans quand même, vous avez forcément le Français moyen dans les 87%, en fait, ils ne sont pas taxés. Donc ils ont un taux qui est inférieur déjà au taux des super-riches. Donc déjà, l'information est fausse. Et ensuite, il faut se poser la question, pourquoi ce taux, il est décroissant, y compris chez les gens qui ont des beaux héritages, mettons 300, 400 000 euros. Parce qu'en général, ces gens qui sont très riches, ce sont des outils de travail, ce sont des entreprises. Et que pour éviter qu'il n'y ait zéro chez nous, capitalisme familial, zéro entreprise familiale, ce qui serait un petit peu dommage parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises très belles qui sont des entreprises qui se donnent sur la durée, eh bien évidemment on a fait un dispositif qui est le dispositif Dutreil. Sans ça, ça voudrait dire qu'on vend à l'étranger tout de suite, au bout d'une génération, nos entreprises. C'est un peu dommage.
Alors, mais Mélanie Plouvier, peut-être allez-vous appeler ce que Olivier Babeau appelle le capitalisme familial, la société de rentiers, c'est-à-dire cette société du 19e siècle?
Plus exactement, une société, on peut l'appeler une société d'héritiers. Le diagnostic est le suivant. Tout le monde n'hérite pas. Et c'est là les coordonnées du problème. Si, à la rigueur, tout un chacun héritait, bon, l'héritage ne poserait pas en soi de problème. Le problème, c'est que le patrimoine est très inégalement réparti, beaucoup plus inégalement réparti que les revenus. Et on a une méconnaissance, hein, on sous-estime en France les inégalités de patrimoine. Le patrimoine est concentré entre certaines mains. Concrètement, hein, voilà, les 10% les plus riches détiennent aujourd'hui plus de 54% du patrimoine total. Et donc, le problème, c'est que certains sont héritiers quand d'autres ne le sont pas. Alors, concernant les raisons pour lesquelles les grosses transmissions sont finalement relativement faiblement taxé, moins de 10%. Alors, il y a le pacte Dutreil, mais ce n'est pas la seule exonération. Il y a de très nombreuses exonérations, exemptions dans le système fiscal français sur les transmissions d'œuvres d'art, d'assurance vie, d'entreprises familiales. Et vous voyez, la difficulté, c'est que ce sont des exonérations qui concernent des types de biens détenus par les classes les plus aisées. Et je pense que ça contribue fortement à une insuffisante démocratie de l'impôt.
Alors, donnons la parole à un homme, lui, qui fait vivre encore ce mythe de la méritocratie, Jonathan Gueloff, puisque vous êtes parti de rien et que vous avez eu un très beau succès. Est-ce que vous seriez prêt à votre mort pour la démocratie? Est-ce qu'on vous taxe plus pour redistribuer, faire vivre l'ascenseur social?
Alors moi, ma vision est assez claire là-dessus. J'aime travailler, j'aime contribuer à faire vivre un État, mais ce que j'aime pas, c'est détruire de la valeur. Et donc, ce qui se passe quand on parle d'héritage, en général, c'est à la fin de sa vie, voilà, on se prend l'héritage dans la tête, mais le problème, c'est quand toute sa vie, on a payé beaucoup d'impôts. Et moi, ce que je refuse, c'est de payer toute ma vie énormément d'impôts, et en plus, à la fin, se faire taxer. Et ce que j'essaye de prôner depuis pas mal de temps, c'est de dire, on devrait très fortement réduire les impôts sur le revenu, les impôts sur les sociétés, sur tout ça, parce qu'il faut savoir que une société, pour payer 1 euro à un salarié, elle sort à peu près 2 euros. Et plus le salaire est élevé, plus elle doit sortir de l'argent, jusqu'à presque x3 sur des hauts revenus. Et donc, en fait, il y a une destruction de valeur très tôt, où on ne met pas l'argent dans la bonne poche tôt. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, une entreprise, de manière générale, donne la grande partie de son argent à l'État, au lieu de faire travailler cet argent et donc de faire de la productivité et donc de permettre aux
Alors,
gens de consommer
j'entends
plus.
J'entends Cécile Duflot qui veut réagir à vos propos, Jonathan Galoff.
Oui, je veux surtout réagir à ce qu'a dit Olivier Babot sur le pacte du Dreil. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais en fait, c'est une arnaque. Je vous explique pourquoi. Quand ça a été mis en place, et pour le coup, Oxfam et nous sommes d'accord, l'idée, c'était de permettre la transmission des entreprises françaises pour qu'elles restent en France et que les héritiers ne doivent pas payer tellement d'impôts qu'ils soient obligés de vendre l'entreprise. Jusque-là, très bien. Même si on peut se dire que les héritiers, ça pourrait être les salariés. On pourrait imaginer qu'un chef d'entreprise ait envie de transmettre son entreprise à ses salariés. Sauf que depuis, on a mis dans des holdings, donc détenus par les chefs d'entreprise, des biens immobiliers, des œuvres d'art, des actions d'entreprises étrangères, et on dit que tout ça, c'est du patrimoine professionnel. C'est-à-dire qu'on a blanchi l'immobilier, les œuvres d'art, qu'on a transformé en bien professionnel auquel s'applique le pacte Dutreil. Je rappelle, le pacte Dutreil, c'est 3/4 de vos biens professionnels sont totalement exonérés d'impôts sur les successions. Sauf que ce n'est pas des vrais biens professionnels. Et donc, à minima, si on pouvait faire en sorte que ce dispositif ne s'applique que sur des biens professionnels en France, ce serait déjà quelque chose de beaucoup plus honnête. Aujourd'hui, c'est une façon de blanchir l'héritage des super-riches. Vraiment, il y a
blanchir
un énorme problème.
Blanchir l'héritage des super-riches, donc persister dans cette société finalement d'héritiers. Mais la question que j'ai envie de vous poser à Olivier Babot, finalement, c'est est-ce que l'héritage, c'est un facteur d'inégalité ou un droit, tout simplement, le prolongement du droit de la propriété, par exemple?
En réalité, ça mobilise une conception philosophique qu'on peut avoir de ça. C'est même pas seulement une question économique. C'est-à-dire, philosophiquement, vous avez même des libéraux qui sont pour une taxation à 100% de l'héritage, en disant on repart de zéro à chaque fois, comme ça chacun est sur la même ligne de départ. Alors moi, effectivement, si je suis pour l'héritage, c'est plus pour, du point de vue de celui qui travaille pour transmettre, en fait. Moi, en tant que père, d'ailleurs, de 4 enfants, on travaillerait assez peu si on ne travaillait que pour soi. En réalité, assez rapidement, on travaille pour transmettre quelque chose, et c'est une forme de son droit de propriété. L'argent, évidemment, qui a été extrêmement taxé durant la vie, effectivement, à tous les moments, même pendant la détention, au moment où on l'a touché, parce qu'on est quand même dans les hauts revenus, souvent à des taxations marginales autour de 70%. Déjà, il faut le savoir que la France est un des pays de l'OCDE qui taxe le plus sur les patrimoines et qui aussi est le plus égalisateur, le plus redistributif. Je crois qu'il est nécessaire et indispensable qu'on soit libre de donner ce fruit de son travail, évidemment, à ceux qu'on aime et à ceux qu'on choisit.
Je vois Mélanie Plouvier écrire plein de contre-arguments. J'aimerais lui laisser la parole parce que là, je sens qu'elle n'était pas forcément d'accord avec vous.
Alors, je suis surprise de la part de quelqu'un qui défend la valeur travail de vous voir, Monsieur Babot, défendre également la valeur héritage.
Mais c'est le droit de propriété.
Puisque précisément, les héritiers n'ont pas travaillé pour le patrimoine qu'ils reçoivent en héritage. Et de ce point de vue-là, il y a une contradiction du côté du libéralisme à défendre tout à la fois une propriété privée ancrée sur le travail et l'héritage qui, lui, est, si vous voulez, une somme qui n'est pas issue d'un travail. Concrètement, je ne pense pas par ailleurs qu'on travaille exclusivement pour transmettre à ses enfants des biens matériels. On transmet bien d'autres choses et je ne suis pas certain que le rêve d'être le plus riche du cimetière en vue de transmettre à ses enfants soit le rêve de tout à chacun. Je crois que ce qu'on veut surtout, c'est transmettre, enfin assurer à nos enfants de bonnes conditions de vie, de notre vivant. J'ajoute juste un dernier point. Aujourd'hui, voyez, on ne cesse de parler des enfants. Il faut savoir, et ça c'est une donnée démographique qui change complètement la nature du débat. L'âge moyen d'héritage aujourd'hui, c'est 60 ans en pleine propriété. Au 19e siècle, c'était 25 ans. Là, oui, c'était encore de jeunes adultes. Aujourd'hui, vous allez transmettre à vos enfants quand ils auront, je vous le souhaite en tout cas, 60 ans. Et vous devinez bien qu'on ne fait pas la même chose à 60 ans qu'à 25 ans.
Rapidement, Jonathan Galoff, faut profiter de cette vie aussi, de son vivant.
En fait, aujourd'hui, il y a une frustration globale en France. Il faut arrêter de se le cacher, c'est un gros problème les impôts en France, on est un des pays qui taxe le plus. Et du coup, beaucoup de gens essayent de fuir le pays. Les personnes supérieures dans les grosses boîtes veulent fuir, les grands entrepreneurs veulent fuir. Et en fait, parce qu'ils ont l'impression de se faire tout le temps taxer indéfiniment. Moi, ce que je veux, c'est que plutôt les gens qui travaillent vivent bien de leur travail, qu'on paye l'addition à la fin. Pourquoi
alors,
la payer tout le temps ?
Payer l'addition à la fin. Voilà. Figurez-vous qu'énormément...
Pay later.
Évidemment. Et figurez-vous qu'énormément d'auditeurs s'interrogent sur vos propos au 01 45 24 7000. Ils sont nombreux à réagir avec cette grande taxation à la mort, avec le risque de peut-être déshériter ses enfants. On va vous faire dialoguer avec François-Xavier Bellamy, l'eurodéputé philosophe, qui lui pense qu'il est très dangereux d'installer une société où on ne lègue rien à ses enfants. On en parle juste après Chapelle Rhône. C'était Chapelle Rhône, Naked in Manhattan.
France Inter. Le débat de midi.
Et on est toujours ensemble jusqu'à 12h45 sur France Inter pour interroger l'héritage amplificateur des inégalités ou droit fondamental à transmettre. On va se demander eh bien, s'il ne faudrait pas moins nous taxer de notre vivant et finalement plus nous taxer à notre mort. C'est l'avis de Jonathan Angeloff qui est sur ce plateau, entrepreneur à succès en compagnie de la philosophe Mélanie Plouvier qui signe l'injustice en héritage et de l'économiste libéral Olivier Babou. Alors, vous avez été très, très nombreux à réagir sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. Nicolas et Antoine sont tous les deux parents. Et ce qui les a fait réagir, eh bien, c'est le droit ou le choix que peuvent faire certains de vivre pleinement, quitte à déshériter leurs enfants.
Je me pose la question si un jour il y aura un héritage pour eux ou si j'essaierai de dilapider tout ce que j'ai amassé dans ma vie pour leur permettre de partir avec leur propre créativité.
La menace de déshériter est horrible. Heureusement que c'est interdit en France. Parce que si les parents sont un peu riches, ça crée une relation avec les enfants que je trouve horrible, où les enfants doivent toujours se conformer exactement aux caprices des parents pour un peu que les parents soient pas très sympas. Je trouve ça atroce.
Jonathan Angeloff. Alors, vous, donc je rappelle, entrepreneur, très belle réussite, on peut le dire, millionnaire aujourd'hui, est-ce que vous avez à cœur de laisser tous ces millions à vos enfants ou au contraire, est-ce qu'il faut partir un peu, faut pas en faire des petits bourgeois, si je puis dire. Qu'est-ce que vous allez faire?
Ouais, moi, mes enfants, ils seront élevés vraiment dans la mesure, c'est-à-dire que peu importe la fortune que j'aurai au moment où j'aurai des enfants, ils seront élevés comme des enfants normaux. Il n'y aura pas de choses exceptionnelles, moi, ça me choque
toujours.
Mais vous
voulez leur transmettre ou pas?
La transmission, en fait, comme je dis, ça dépendra de ce que l'impôt va me taxer durant ma vie. Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on simplifie la manière et qu'on réduise les impôts de notre vivant pour pousser la consommation. Donc, moi, ça me gênerait
quitte
pas
à ce
de,
que, quitte à ce à que la l'État donner 90%.
Voilà. Moi, ça me gênerait pas de donner 90% de tout ce que j'ai gagné à la fin aux impôts si durant mon existence, en revanche, j'ai payé moins de 10% d'impôts ou quelque
mais
chose comme
enfants,
ça.
Mais vos enfants, ils vont faire la tronche, Jonathan.
Mais non, parce qu'ils vont vivre avec moi jusqu'à, j'espère, au moins, allez, espérons que je vive tard, mais au moins jusqu'à 60 ans. Donc, jusqu'à 60 ans, ils vont profiter directement, alors peut-être jusqu'à leurs 20 ans, mais après, j'espère qu'ils seront quand même indépendants et ils ont intérêt à l'être. Mais ils vont vivre avec un papa qui aura travaillé toute sa vie, sa sueur, qui va bien vivre parce qu'il l'a mérité, parce qu'il a travaillé. Et à la fin, bah ouais, il faut accepter qu'on a bien vécu ces 60 années de vivant de mon enfant, de mes enfants, et qu'à la fin, bah ouais, il va pas rester grand-chose. Mais parce que pendant ces 60 années, vous avez bien vécu. Et en revanche, ouais, il va falloir se mettre au boulot si ça n'a pas été le cas, quoi.
Mélanie Pouvier.
Je crois que ce qui est intéressant dans, excusez-moi, dans le cas Angeloff,
on va l'appeler comme ça,
c'est que bon, vous incarnez aujourd'hui la figure du self-made man qui a vraiment réussi à vous constituer. Vous êtes parvenu à vous constituer une fortune seule, sans aucune aide familiale.
Ouais, pour rappel, j'ai grandi en famille d'accueil, voilà. À l'aide sociale à l'enfance, j'ai rien eu. Donc voilà. Je sais que c'est possible et c'est aussi pour ça que
bravo,
je veux pousser.
Bravo pour cela. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous êtes, monsieur Angeloff, une exception. Et vous êtes une exception parce que le paysage global français, c'est une panne de l'ascenseur social. Et d'ailleurs, vous le dites souvent vous-même, hein, combien y avait-il d'enfants sans partie de rien dans l'école de commerce que vous avez fréquentée? Combien y a-t-il de non-héritiers dans les patrons du CAC 40 ou même dans les patrons du Next 40 qui rassemble
oui,
les start-up les plus prometteuses à la française? En d'autres termes, en un sens, vous êtes l'arbre qui cache la forêt, parce que votre réussite personnelle, en tout cas, elle ne doit pas... je comprends ce que vous dites, c'est possible. Mais c'est possible dans un contexte de réussir par soi-même. Dans
ce
un
que
contexte,
vous dites, c'est qu'on est passé de la méritocratie à l'héritocratie.
C'est de plus en plus, c'est de plus en plus difficile, un parcours comme le vôtre. Et pourquoi c'est de plus en plus difficile? Précisément parce que nous sommes dans une société dans laquelle l'héritage pèse de plus en plus. Et donc, je pense qu'à la fois, votre parcours est extrêmement intéressant. Il faut se demander quelles sont les causes pour lesquelles ce parcours est exceptionnel.
Oui, mais moi...
Alors, pardon, si je peux te dire un mot. C'est intéressant parce que si on devient une société d'héritiers, c'est pas parce qu'il y a énormément d'héritage, c'est parce qu'en réalité, on est dans une société qui taxe tellement le travail qu'on ne peut pas réussir, qu'on ne peut plus s'enrichir par le travail. Même si vous gagnez énormément au bout d'un moment par votre salaire, en réalité, vous allez être très derrière des gens qui ont du patrimoine accumulé parce qu'il est taxé, à des taux marginaux qui peuvent atteindre les 70%. Alors, moi, je suis capable de penser contre moi-même et je suis le premier à dire, et j'en ai vu beaucoup de cas autour de moi, de gens pour qui la richesse héritée a été une malédiction. Ça a été la malédiction de leur vie. Le fait qu'ils n'aient pas à travailler, ça a brisé l'élan de leur vie. C'est vrai que je ne le souhaite à personne, mais l'idée qu'on puisse quand même transmettre quelque chose me paraît essentielle. Et je vais même vous dire une mauvaise nouvelle idéologique qui est terrible. L'expérience chinoise a pu montrer que même si on avait fait un reset complet, on est reparti à zéro complètement du point de vue des patrimoines en Chine, évidemment, avec le Parti communiste, eh bien, les familles dominantes, on a montré que les familles dominantes étaient les mêmes après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mes chers amis, c'est terrible, mais que la vraie transmission, le vrai héritage, ce sont le capital culturel et de réseaux, et évidemment, et sociaux. Et donc, en réalité, ça, malheureusement, vous ne pouvez pas le taxer, vous ne pouvez pas l'empêcher. Ce qui veut dire, et pardon, je m'arrête là, mais en réalité, il ne faut pas s'étonner du fait qu'il y ait des héritiers, que les gens s'héritent et qu'il y ait la reproduction sociale. Le plus étonnant, ce sur quoi il faudrait travailler, c'est quand il n'y a pas de reproduction
sociale.
Alors,
laissez le dialogue circuler comme ça.
Je trouve un peu facile de masquer les inégalités patrimoniales de plus en plus importantes dans la société française au nom de l'existence d'inégalités culturelles scolaires.
Pardon,
excusez-moi.
Ça n'est pas plus important, ça n'est pas bougé depuis 2009, ça a gagné à peine 1%, la concentration des 10% les plus riches. Donc, ça n'est pas vrai. Aux États-Unis, c'est sans doute vrai, mais pas en France.
Voilà. Il n'en reste pas moins qu'il y a une très forte concentration patrimoniale en France.
On l'a dit à plusieurs reprises, hein, 10% les plus riches qui détiennent 54% du patrimoine.
C'était 80% au 19e siècle.
Certes, bah, ok.
D'accord, mais on n'y est pas. Donc. Mais
il y a, non, mais, y a des gens aussi alors, qui n'y pas.
Attendez,
pas
je finis juste mon argument. Le détenir du capital culturel ne permet pas, par exemple, d'acheter un appartement à Paris aujourd'hui. Il faut revenir... C'est du capital sonnant et trébuchant qui crée des inégalités sociales. Que d'autres facteurs y contribuent, ok, mais ce n'est pas... On ne peut pas minorer les inégalités matérielles au nom d'inégalités culturelles, symboliques, scolaires.
Moi, je veux réagir parce que ce débat est ultra important pour moi.
Jonathan Gueloff.
On parle souvent d'ascenseur social grippé. On est d'accord que c'est pas évident de réussir quand vient une famille pauvre. Ça, je suis le premier à le dire, c'est l'enfer. Maintenant, l'État, la manière dont les taxations sont faites, la manière dont tout ça est construit, quand on veut créer une entreprise, justement, quand on vient de rien et qu'on veut créer une entreprise, ça nous coûte de l'argent de créer une entreprise. On se prend des taxes tout de suite, les CFE, les trucs, ça tombe de partout et ça décourage ces gens qui sont moins bien éduqués, qui viennent de moins bonnes familles et parce que l'impôt est punitif pour l'entrepreneur. Et donc, quelqu'un qui voudrait entreprendre, et moi j'en vois, mais tous les jours, mes copains d'enfance avec qui j'ai grandi, qui disent mais entreprendre, mais c'est tellement flippant, tu te fais taxer à 60%, en fait, moi je préfère être salarié à la fin. Et ça, c'est destructeur de valeur. Et c'est ça qui m'agace dans ce qui se passe actuellement en France, c'est que les classes moyennes et les classes les classes pauvres, en fait, sont énervées des entrepreneurs, mais qui, eux, prennent tous les risques et qui se font taxer de partout. Et
alors, c'est pas un débat sur l'entrepreneuriat, évidemment.
Mais le problème vient de là.
On va remettre donc le débat sur la table, à savoir pour ou contre taxer l'héritage, pour effectivement faire relancer l'ascenseur social. Olivier Babeau, je vous vois réfléchir. Effectivement, les Français qui ont travaillé toute leur vie pour le fruit de leur labeur ont envie de le donner à leurs enfants, ça on le comprend.
La plupart du temps, c'est des choses relativement modestes que vous transmettez effectivement. La plupart des successions sont quand même effectivement c'est 100 000 euros, 200 000 euros. C'est rarement malheureusement un appartement.
Il faudrait lever
à Paris.
toutes les taxes.
C'est vrai que ça fait une différence. Mais encore une fois, la mauvaise image idéologique, c'est que même si on taxait à 100% absolument tout, vous auriez probablement les mêmes familles qui dominent la génération d'après en fait. Donc ça ne réglerait pas tout à fait le problème. Après, il y a une redistribution
c'est assez
très importante.
Ce que vous dites,
je peux
quand
juste
même.
Il y a une représentation. La France est le pays qui redistribue le plus. L'INSEE a montré que vous aviez, je crois, 57% des Français qui étaient bénéficiaires net, en fait, tout compris de prestations sociales et de services publics. Et c'est formidable. Ce qui est dommage, et effectivement, ce qu'on peut regretter, c'est que le travail est tellement taxé qu'il empêche justement l'accumulation d'un héritage chez beaucoup de gens et qu'il y a une sorte de barrière à l'entrée terrible que certains franchissent, mais beaucoup, même par une vie de travail, vous pouvez d'ailleurs être aujourd'hui un couple diplômé, gagnant très bien votre vie, vous pouvez même pas vous loger en fait avec votre famille dans les grandes villes. Ça c'est la grande injustice. Et en fait, le problème, c'est pas l'héritage, en fait, paradoxalement, c'est la taxation du travail.
Alors, on va continuer ce débat avec François-Xavier Bellamy qui nous attend au téléphone et qui va nous dire pourquoi lui, eh bien, veut la mort de l'impôt sur la mort, puisque pour lui, eh bien, c'est philosophiquement inacceptable. Et on va revenir aussi sur un phénomène qui va choquer la société française, le plus grand transfert de richesses de l'histoire dans les 30 prochaines années. 25 milliardaires français transmettront à leurs héritiers plus de 460 milliards d'euros de super-héritage. On appelle déjà ce phénomène la grande transmission. Le choc et le shoot de Yémé sont à venir sur France Inter.
Me prends pas la tête, je me casse d'ici, j'emporte ma verre. C'est elle ma reine. Nous deux, c'est toxique pour la vie. Ça sera toi et moi dans la reine. Entre le love et la haine. T'es comme toi, j'en fais ma paire de vue. Mais est-ce que je finirai par en perdre ma vue? Que c'est pour l'inspire et qu'un est hyperactif. J'allume mes cordes, le chromie. Je voudrais chanter toute ma vie. Ma gueule, ça joue, joue. Ma gueule, ça joue, joue. Ma gueule, ça joue, joue. Ma gueule, ça joue, joue.
marche, mais je dors plus la nuit. J'ai toujours su quel était ton prix, mais encore une fois, juste une dernière dose. Faut continuer de faire des sorts. Que le daron plus qu'il débellise. Je m'inquiète, sa santé se fragilise. Donc une dernière fois, je me carbonise.
Le débat de midi. Paola Buérari sur France Inter.
Et on débat toujours de l'héritage, poison empoisonné ou droit fondamental avec Jonathan Gueloff, l'économiste Olivier Babeau et la chercheuse Mélanie Plouvier qui a publié L'injustice en héritage. Et nous sommes en ligne avec François-Xavier Bellamy, député européen mais aussi philosophe. Bonjour François-Xavier Bellamy.
Bonjour.
Alors, vous dites que l'impôt sur la mort, c'est philosophiquement inacceptable. Pourquoi ?
J'étais très intéressé d'écouter le débat et la position de M. Engelhoff qui est très intéressante parce qu'elle est en fait totalement contraire à ce que disent les Français quand on les interroge. Les Français disent aujourd'hui, quand ils sont interrogés sur l'impopularité, que celui qu'ils aiment le moins, c'est l'impôt sur les successions. Et ça pourrait paraître paradoxal qu'ils ne mettent pas parmi leurs impôts les plus détestés celui qui taxerait leur salaire d'aujourd'hui, ou bien celui qui taxerait leur consommation d'aujourd'hui, la TVA, non. C'est l'impôt sur les successions, même quand ils sont peu exposés à le payer, parce qu'au fond, il y a quelque chose de très profond dans la condition humaine qui tient à la volonté de transmettre, de se prolonger dans l'avenir et de pouvoir faire en sorte que par l'effort qu'on fait aujourd'hui, les enfants que l'on a puissent mieux vivre demain. Et je crois que on ne peut pas comprendre ce débat si il était d'ailleurs passionné, et il est passionné précisément parce que on ne peut pas le comprendre si on en fait un simple débat technique. Et il y a dans cette question de la transmission une question qui est bien plus profonde que la question simplement technique de savoir comment organiser le mieux la fiscalité d'un point de vue purement
Alors,
comptable.
Je vous rejoins avec des chiffres, François-Xavier Bellamy. 77% des Français jugent les droits de succession injustifiés. 84% pensent qu'il faudrait diminuer l'impôt sur l'héritage contre seulement 13% qu'il faudrait l'augmenter. Quel est le danger d'une société peut-être individualiste où on ne lègue rien à ses enfants, où il n'y a pas de prolongement de famille? Quel est ce danger de ne rien léguer en héritage?
Moi, je me suis intéressé à la question de l'héritage d'abord comme professeur de philosophie parce que précisément, mon but était de transmettre. Et tout à l'heure, Olivier Babeau, je crois, parlait à votre micro du capital culturel. Je ne crois pas à cette idée de capital culturel. Je crois que la culture est précisément quelque chose qui s'augmente à mesure que c'est transmis. Mais en travaillant sur cette question de la transmission, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'artisans, de commerçants, beaucoup d'entreprises familiales, et de voir à quel point, par exemple, dans une entreprise familiale, je pense aussi à des agriculteurs, à des viticulteurs, des gens qui travaillent la terre, qui travaillent avec leur outil de travail et qui veulent précisément le faire durer pour les générations qui viendront. Il y a une grande santé, une grande sagesse dans cette logique du temps long qui s'oppose peut-être à l'immédiateté de la société de consommation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Si on disait aujourd'hui aux Français que tout ce qu'ils ont construit disparaîtrait avec leur mort et que tout ce qu'ils ont pu gagner serait dilapidé ou en tous les cas transmis à l'État au moment où ils partiront, eh bien ça créerait, d'ailleurs Monsieur Engelhoff le disait dans ces termes-là, ça créerait la volonté d'une consommation immédiate. On voudrait évidemment tirer le plus possible pour soi-même.
Alors,
de ce bien que l'on a dans les mains plutôt que de le cultiver pour le faire durer au-delà de soi.
Ce qui tombe bien, c'est que nous allons avoir un débat philosophique, François-Xavier Bellamy, puisque Mélanie Plouvier est elle aussi philosophe et je crois qu'elle n'a pas la même philosophie que vous.
Alors, il est certain que les sondages que vous avez cités le rappellent, hein, l'impôt sur les successions est fortement détesté. Il l'est parce qu'il est surévalué. Vous avez cité tout à l'heure le chiffre de 45%, hein, ce chiffre fantasmagorique, parce que concrètement, 45%, c'est le taux appliqué à ce qui dépasse 1,3 million uniquement, la partie qui dépasse 1,3 million.
Sortons des taux, justement, et regardons une société où il n'y aurait pas d'héritage.
On peut, alors, si on regarde une société dans laquelle laquelle il n'y aurait pas d'héritage. Est-ce que, donc là, ce que dit Monsieur Bellamy, hein, c'est qu'il y a un besoin anthropologique de transmettre. Tout individu a besoin de transmettre. De transmettre des biens matériels. Je ne sais. Est-ce que, parce qu'il me semble que ce besoin de transmission peut se jouer sur autre chose. C'était le débat qu'on avait avant, que exclusivement les biens matériels, mais surtout revenons à la réalité. Il y a plein de familles dans lesquelles il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de bien matériel transmis. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire que ces familles ne répondent pas, il y a pas, elles ne seraient pas véritablement des familles. Monsieur Babot parle dans un article dans une société où on ne pourrait pas transmettre. Il parle d'euthanasie de la famille, mais ces familles dans lesquelles rien ne se transmet, elles sont euthanasiennes, non? Elles fonctionnent. Et excusez-moi, j'ajoute juste un élément. On idéalise souvent le moment de la transmission. Voyez aussi combien les fratries se déchirent face à la transmission.
Olivier Babot.
Je comprends pas bien le modèle, c'est donc la pauvreté économique. Pauvreté économique, elle est en général assez mal vécue. Je dis pas que c'est
pas
forcément
tout,
une famille dysfonctionnelle. C'est forcément une famille dysfonctionnelle, mais moi j'ai écrit pas mal d'articles, à l'époque ça avait fait un petit débat d'ailleurs, autour de la défense de la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est quoi? C'est la plupart du temps, tu hérites évidemment de discipline de soi, évidemment de culture. Il y a évidemment une culture, de capital culturel. Moi, je crois que ça existe vraiment. C'est pour le coup quelque chose qui en sociologie est quand même assez bien décrit, capital social. Et puis, c'est aussi la somme des efforts de toutes les générations qui t'ont précédé et de gens qui ont donné leur vie pour te passer et te favoriser, te faciliter la vie. Alors, c'est très rare que ça t'empêche de travailler, enfin que ça te dispense très exactement de travailler. C'est plutôt quelque chose qui, en effet, crée une inégalité. Alors, en France, il y a toujours cette idée-là, quand il y a une inégalité, soit vous évidemment vous égalisez par le haut, soit par le bas, et en général on dit par le bas. Donc si tout le monde ne lit pas le soir à ses enfants, n'est-ce pas, une histoire, ça crée des inégalités. Donc il faut interdire aux gens de lire. Disons plutôt, essayons de convaincre les familles qui ne lisent pas de lire à leurs enfants, parce qu'en effet ça va élever tout le monde. Voilà, c'est plutôt ça l'idée.
Non, mais de toute façon, sur le débat de l'héritage, je suis assez clair sur, en tout cas, tout ce qui est revenu foncier, etc. Sur les entreprises, j'ai une vue assez différente, et on a parlé tout à l'heure du pacte Dutreil qui en effet détourné, et ça c'est un problème qui devrait être beaucoup plus serré, de dire quand on a une entreprise familiale, c'est ok de transmettre. Je peux comprendre que l'agriculteur, il a envie de transmettre à ses enfants, mais c'est une entreprise. Et il faut qu'on contrôle ça, c'est de dire oui, alors si on crée une holding, et dans la holding on met tous les biens immobiliers, tout le cash, tout ce qui traîne, et on dit voilà, bon, ça c'est une société qui tourne. Non, ça c'est pas une société. Et d'ailleurs, pour les entrepreneurs, il y a un truc qui existe, qui s'appelle lorsqu'on vend des parts de sa société, où on peut faire du remploi. Et le remploi, c'est-à-dire de réinvestir l'argent de ces gains qu'on a fait, de les réinvestir dans l'économie. Et ça, c'est très contrôlé. Typiquement, on ne peut pas le faire avec de l'immobilier, faire des choses comme ça. Il faut investir dans des entreprises qui ont une activité sociale très claire. Et donc, pour moi, il y a une bonne mesure à trouver. Et les entreprises, c'est autre chose de tout ce qui est bien immobilier, foncier, cash, etc., quoi.
Donc une maison de famille, ça ne se transmet pas. François-Xavier Bellamy, Jean-Paul vous pose une question. Transmettre des biens matériels serait donc plus important que de transmettre des valeurs? La question de Jean-Paul qui a participé sur le WhatsApp de l'émission.
Non, bien sûr que non. Et je viens de dire que j'étais devenu professeur de philosophie justement par volonté de transmettre. Et je crois que dans la transmission, le plus important, c'est certainement d'abord de l'ordre de l'immatériel. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je crois que toutes les familles transmettent, tous les parents transmettent. Même si tous ne transmettent pas un héritage matériel, il n'y a aucune famille qui ne transmette rien. Et cette transmission, qui peut être parfois, d'ailleurs, il ne faut pas l'idéaliser, qui peut être le lieu de blessures, de difficultés, on transmet aussi parfois des souffrances familiales, mais toute transmission fonde en effet cet élan d'un individu vers quelque chose de plus grand et de plus long que soi, j'allais dire. Et je voudrais dire de ce point de vue-là, pourquoi je crois que le sujet déterminant pour nous aujourd'hui, ça n'est pas de contester l'héritage, mais au contraire d'empêcher qu'il y ait tant de déshérités, parce que nous vivons une période marquée par une très profonde injustice, en effet, qui est notamment cette injustice scolaire. Moi, il me semble que c'est pas si grave que ça de pas tous partir dans la vie avec le même patrimoine matériel, si on part tous dans la vie en ayant reçu de l'école en particulier, mais aussi de sa famille, la culture qui nous permet de devenir ce que nous sommes. Je conteste l'idée de capital culturel parce que je crois qu'à travers ce concept, Bourdieu, parce que c'est à lui qu'on le doit, a fait de la culture quelque chose qu'on doit avoir, un capital, quelque chose comme un moyen de production. Mais la culture, c'est bien plus que ça. La culture, c'est bien plus qu'un moyen de se repérer dans la guerre économique future qui attend nos successeurs. La culture, c'est d'abord ce par quoi on peut accomplir ce que l'on est, accomplir son propre talent et l'aventure de sa liberté.
Il y a la culture.
Et ne pas recevoir cela, être privé de cet héritage culturel, être privé de cette transmission qui, je le redis, n'appauvrit personne, puisque pour le coup, elle se multiplie à mesure qu'elle s'opère, eh bien, c'est en réalité la plus grande injustice qui soit, et c'est celle que vit notre pays aujourd'hui, parce que, on le sait, on a l'école la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. La plus grande injustice, elle n'est pas dans la transmission du patrimoine matériel, elle est d'abord dans la faillite de notre école qui fait tant de déshérités aujourd'hui.
Et c'est tout l'enjeu aussi de relancer cette méritocratie tout en sortant de cette héritocratie. Mais il y a la culture quand même dont vous parliez François-Xavier Bellamy, et il y a la réalité financière, puisque Nestor nous dit sur l'application France Inter: message pour les héritiers encombrés par leur héritage, fils d'ouvrier, moi j'accepte volontiers l'ensemble de votre héritage pour vous protéger des affres qu'il semble vous provoquer. Un mot sur la grande transmission dont je parlais, Mélanie Plouvier, une grande transmission qui représentera le plus grand transfert de richesse de l'histoire. En un mot, dites-nous à quoi ça va ressembler.
Avec le vieillissement des baby-boomers, d'ici 2040, 9 000 milliards d'euros vont être transmis et vont être transmis à des personnes qui ont 60 ans ou plus. C'est le plus grand transfert de capital privé que la France ait connu, et je pense que...
Ça va choquer la société en 30 secondes finir.
C'est énorme. Regardez, François Bayrou peine à boucler le budget. Là, on parle de 9 000 milliards, les sommes, on n'arrive même pas à se les représenter. Et je crois que ça configure la question de l'héritage d'une manière nouvelle. Que l'on soit pour, contre, nous devons collectivement nous rendre compte que là, il va y avoir un grand transfert de richesse qui va se faire à l'intérieur de la famille. Certains, par là même, vont hériter à un âge assez tardif. Je crois que c'est le moment où, je ne dis pas qu'il faut abolir l'héritage, mais nous avons à nous poser la question. Qu'est-ce que nous voulons faire? Quels sont les besoins que nous souhaitons satisfaire par là même?
Alors, avec ce mot abolir, vous avez relancé le débat. J'ai vu la moue de tous les invités. Malheureusement, c'est l'heure de la fin, mais j'espère que vous continuez à débattre à l'heure du déjeuner, peut-être, ou à y réfléchir à ce débat. Merci à tous les quatre d'avoir été nos invités. Jonathan Angeloff, merci. Olivier Babot, Mélanie Plouvier, merci. Et François-Xavier Bellamy. Le débat de midi, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient dès demain. Et demain, on va débattre de la justice à l'ère de MeToo avec une affiche de titan. Béatrice Zavaro, l'avocate de Dominique Pellicot, débattra avec l'avocat de Gérard Depardieu, Jérémy Assous. Présomption de culpabilité, justice médiatique, culte de l'émotion, défendre autant de MeToo, un défi pour les avocats. Envoyez-nous dès maintenant vos messages vocaux sur le WhatsApp de l'émission 01 45 24 7000. Écrivez-nous. Merci à mon équipe qui a fait un boulot épatant. Aurore Mansip, Johan Duval, nos stagiaires Anaë Balista et Ryan Saibi. À la réalisation, Riyad Kera. À la programmation musicale, Valentine Chedebois. Et à la technique, aujourd'hui, c'était Théo de Lobadère. Il est midi 45, c'est l'heure de retrouver le jeu des 1000 euros avec Nicolas Stoufflet. Et cette semaine, eh bien, vous êtes sur l'île de Groix, une émission qui a déjà été diffusée en septembre 2024, mais qu'on réécoute avec bonheur.
Chers amis, bonjour !
Bonjour !
L'île de Groix qui nous accueille cette semaine pour le jeu est à 45 minutes de bateau de Lorient, une liaison qui fonctionne toute l'année, c'est important de le préciser évidemment. 2300 habitants en permanence sur l'île, 47% des habitations sont des résidences secondaires, voilà pour les chiffres. L'activité économique est encore un peu la pêche, il y a aussi des aquaculteurs, des fabriques alimentaires, une conserverie de poissons, une biscuiterie, une brasserie artisanale, une chocolaterie, une fumaison de poissons, des savonneries, 10 exploitations agricoles, notamment maraîchères, maraîchers bio, petits fruits, exploitations vinicoles aussi, c'est nouveau, élevage d'escargots, élevage ovin. Le secteur du bâtiment, bien sûr, et de l'artisanat est très présent sur l'île. Et le commerce, et bien sûr le tourisme. Tous les types d'hébergements sont possibles. Des restaurants également, et l'île vit toute l'année, on le rappelle, il y a un cinéma, il y a une médiathèque, il y a un musée, il y a une salle des fêtes, et aujourd'hui, il y a le jeu des 1000 euros dans la la salle des fêtes. 137 jeunes sont scolarisés sur l'île, un effectif en légère hausse même, régulière. L'île possède deux écoles primaires et deux collèges, en public et privé. Et puis, pour le lycée, eh bien, direction générale Lorient, et pas mal de lycéennes et de lycéens sont internes et rentrent pour la fin de la semaine. Aujourd'hui, pour le spécial jeune du jeu, nous avons le plaisir d'avoir un frère et une sœur qui jouent. Eh oui. Patronyme Avignon, oui, c'est votre nom de famille, et les prénoms de nos deux candidats, c'est Pénélope et Anatole. Bonjour Pénélope.
Bonjour Nico.
Pénélope, tu es au lycée en seconde. Tu es à Lorient, toi, au lycée?
Oui, à Lanester.
À Lanester, c'est à côté de Lorient,
oui,
c'est vrai.
Juste à côté.
Tu passes une partie du temps à Groix?
Oui, à peu près 50% du temps, si on calcule. Mais le week-end et les vacances.
Parce que tu as de la famille ici.
Oui.
Qui habite sur l'île de Groix?
Mes grands-parents, ma grande-tante, mon parrain et ma marraine.
Génial. Tu en profites bien de l'île, tu l'aimes cette
île? Oui.
Qu'est-ce que tu fais quand tu es ici?
Je fais du vélo, je balade Yoda.
Yoda, c'est ton chat?
C'est le chien de mon parrain.
Ah, c'est le chien, d'accord. Oui.
Ouais.
Tu voudrais être vétérinaire d'ailleurs?
Oui, ouais. Ouais. C'est un métier de rêve un peu.
Oui.
J'espère que j'y arriverai, quoi.
Bah oui, c'est des études pas faciles, hein,
oui.
C'est vrai, et puis un peu longues. Mais est-ce que tu aimerais te spécialiser, non, quand tu seras vétérinaire?
Je sais pas encore. J'hésite encore entre la ferme et les animaux domestiques, mais je sais pas du tout.
Tu as le temps de choisir.
Voilà.
Oui, la spécialisation. Pénélope qui joue avec Anatole. Donc vous êtes frère et sœur, je le rappelle, ou sœur et frère en réalité, dans cet ordre-là en l'occurrence. Bonjour Anatole.
Bonjour Nicolas.
Anatole en quatrième.
Oui.
Au collège. Donc,
oui.
À Lanester aussi?
Non, à Lorient.
À Lorient, toi, tu vas à Lorient. Alors, quelles sont tes passions, toi? Quels sont tes centres d'intérêt? Est-ce que tu as, je sais pas, est-ce que tu collectionnes les boules à neige? Est-ce que tu aimes particulièrement les cartes postales de voyage en Asie? Est-ce qu'on peut t'offrir des boules et des cochonnets pour Noël? Je sais pas. Quels sont tes centres d'intérêt?
J'aime beaucoup lire.
Est-ce que tu aimes les jeux vidéo aussi, non?
Oui, Minecraft.
Est-ce que tu es geek?
Oui.
Ouais, complètement? C'est vrai?
Oui.
Tu le confirmes, Pénélope?
Ouais, je confirme.
Ouais. Et toi, un peu moins
Ouais, non, moi, les jeux vidéo, pas trop, non.
Pas trop, non.
Ouais, par contre, Insta, ça va. Hein.
Ah, ça balance, hein. Ouais. Ça tacle. Donc, Pénélope, c'est Insta. Et toi, tu es sur les réseaux sociaux, Anatole?
Non.
Non, pas du tout.
J'aime pas trop.
T'aimes pas trop?
Il est trop jeune, surtout.
Il est trop jeune, en plus, oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Quel âge as-tu, d'ailleurs, Anatole, au passage?
12 ans.
12 ans. Et toi, Pénélope?
14.
14. 12 et 14 ans réunis de la même famille au jeu des 1000 euros sur France Inter, qui est, d'ailleurs, une grande famille, une immense famille de candidates, d'auditrices et d'auditeurs. Question spéciale jeune. Première question bleue de Marc et Sophie Dufour du département du Var. En vous promenant en bord de mer, justement, vous avez eu le tirage au sort heureux peut-être, vous apercevez une course de vitesse entre plusieurs voiliers. Comment appelle-t-on ce type de course?
Une régate.
C'est une régate, bonne réponse. Allez, c'est pour vous mettre à l'aise au début du jeu. Deuxième question bleue de Marie Tesson qui habite Repais en Moselle. Quel dieu de la mythologie grecque a donné son nom aux grandes machines qui captent l'énergie d'une certaine façon? Voilà. Donc un dieu de la mythologie grecque qui a donné son
Zeus,
nom.
Zeus, non.
Non,
ça... Hélios.
Comment dis-tu?
Hélios.
Pas Hélios.
Apollon?
Non,
à l'éolienne. Du coup, c'est.
Éole.
Et du coup, c'est Éole, le dieu. Oui. Les éoliennes, Éole. Le vent. Dieu, précisément maître et régisseur du vent en mythologie grecque, c'est Éole. Question bleue aussi, la troisième d'aujourd'hui, de Séverine. Séverine Baudouin, qui habite Paris 12e. Panoramix, c'est le sage et intelligent personnage du village gaulois dans les aventures d'Astérix. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous lisez Astérix?
Oui, oui, oui. Bah oui,
ouais, oui. Ah non, mais c'est pas obligatoire, mais bon, très bien. Ça va vous aider. Mais quel est son rôle?
C'est un druide.
Son titre? Oui.
Oui, druide.
Oui, Panoramix, c'est le druide. D'accord. Maintenant, question blanche, une question posée à Pénélope et Anatole, et à vous toutes et vous tous qui suivez ce jeu des 1000 euros, et pas seulement les jeunes le mercredi, je sais qu'il y a beaucoup d'adultes aussi qui aiment bien le mercredi, parce que souvent, ils me disent « Ah, le mercredi, je réponds plus facilement aux questions, tiens, je comprends ». Question blanche de Joël Degnaud de Gréasque dans les Bouches-du-Rhône. Attention, on monte peut-être d'un niveau de difficulté. Quelle est la spécialité culinaire de cette ville de l'Orne qui s'appelle Mortagne aux Perches?
La saucisse de Morteau?
Ce n'est pas, ah non, ce n'est pas la saucisse de Morteau, donc c'est Mortagne.
Le boudin?
Oui, bravo Anatole. Tu le savais ou tu l'as dit au pif?
Je l'ai dit au pif.
Au pif, t'es tombé dessus. Alors précisément, c'est le boudin noir.
Oui, j'allais dire noir.
Mais... Oui, non, mais aucun problème. Et aux pommes aussi, parfois, très bien. C'est la spécialité de Mortagne aux Perches, la charcuterie, le boudin noir. C'est en Normandie. Autre question blanche de Thomas Engelbrecht, qui habite Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. En 1947, il y a des questions de toute nature dans tous les domaines, c'est très bien. En 1947, quel pays a accordé l'indépendance à l'Inde?
L'Allemagne? La Grande-Bretagne?
Et le pays s'appelle...
L'Angleterre?
Non, plus largement, c'est...
La Grande-Bretagne?
Le Royaume-Uni, c'est ça, c'est le nom du pays. Puisque l'Inde appartenait au Royaume-Uni, donc indépendance de l'Inde... En 1947, sous l'impulsion notamment de Gandhi, scindé en deux, naissance de la République indienne et du Pakistan, 1947. La bonne réponse était le Royaume-Uni. Et déjà la question rouge envoyée par, je cherche son nom et je vais trouver le nom de cette auditrice, c'est écrit en petit en bas à droite, voilà, vous vivez avec moi ce jeu des 1000 euros et ces questions de toute nature, parfois envoyées sur carte postale, parfois c'est un message électronique, parfois c'est un petit papier, parfois un ticket de métro, ça arrive ici. Et une question de Michel Cochelin de Prunelle-Gillon dans le département d'Eure-et-Loire. À qui doit-on l'autoportrait à l'oreille bandée?
Van Gogh.
Ouais, sans hésiter, bravo! Vincent Van Gogh. Une œuvre peinte à Arles en 1889. Super beau parcours. Pénélope et Anatole Avignon, voulez-vous vous arrêter maintenant ou voulez-vous... Bah, je ne sais pas, moi je vous pose la question. Hein. Parce que tu me fais des gros yeux en disant ben non, enfin on va pas s'arrêter maintenant, mais il est fou l'animateur, pourquoi on n'est pas dingue? Voulez-vous donc tenter le...
Banco!
Le jeu des 1000 euros sur France Inter.
Nous sommes sur l'île de Groix, dans le Morbihan. Je vois que cette question banco nous vient de Blois, dans le Loir-et-Cher. Le jeu des 1000 euros, c'est vraiment le jeu de toutes les régions de France, de toutes les localités, qu'elles soient petites, moyennes, grandes. On va absolument partout. Et la question banco, j'y viens, spécial jeune. Une question de François Monnier, qui habite Blois, donc. Qui était le premier ministre du Royaume-Uni? On parlait de l'Inde tout à l'heure, mais là, on n'est pas tout à fait à la même époque. On est un peu avant. Qui était le premier ministre du Royaume-Uni au moment de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle?
Ah, Churchill!
Oui! Winston Churchill!
Je l'ai vu l'année dernière.
Oh, tu as étudié ça l'année dernière?
J'ai étudié ça l'année dernière, oui.
Oui?
Ouais.
En histoire?
Hein?
En histoire?
Oui, en histoire, bah oui. Oui,
en histoire. Winston Churchill, c'était lui, oui, ce Britannique dont il fallait trouver le nom. Ah, bon. Vous avez gagné le banco, voulez-vous vous arrêter maintenant? Ou continuer le jeu en tentant de gagner les 1000 euros, mais avec le risque qui va avec, les 1000 euros du...
Super.
Super banco.
C'est pour vrai.
Une question de Mireille Attias qui habite Bran dans le Jura.
Ça commence mal.
Pourquoi dis-tu que ça commence mal? Explique-moi Anatole.
Non, je sais pas comme ça.
Non, tu Bran, ça ne te
non,
plaît
comme
pas
ça.
Mais si, c'est joli Bran dans le Jura.
Ah.
Oui, si, je t'assure. Qui a peint Impression soleil levant?
Je connais même pas ce tableau.
C'est quoi?
Qui a peint Impression soleil levant?
C'est pas le gars là. Pas Monet. Monet, non?
Non, je sais pas du tout.
Monet. dans dire Monet.
Hein? Bah vas-y, dis, de toute façon, j'ai pas d'autre idée. Donc.
Je rappelle Claude la question, Monet. Tout le monde joue avec nous. Attention, qui a peint Impression Soleil Levant, peintre du 19e, début 20e siècle?
Claude Monet.
Claude Monet! C'est ce tableau qui a donné son nom au mouvement impressionnisme. Un tableau exposé à Paris d'ailleurs, au musée Marmottan, qui s'appelle le musée Marmottan Claude Monet dans le 16e arrondissement.
Oh my god,
j'ai gagné le Super Banco sur France Inter. Pénélope et Anatole, les 1000 euros et le Petit Larousse illustré 2025, ainsi qu'un autre livre de chez Larousse, Secret d'Histoire Junior, si l'histoire de France m'était comptée. Bonne journée à l'écoute de France Inter et à demain, si vous le voulez bien.
Mais bien sûr qu'on le veut bien, Nicolas Stoufflet, le jeu des 1000 euros revient demain.